SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 21 mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal Les Sports, et comme chaque dimanche, le personnage de la semaine. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les titres de ce dimanche 21 mai. Le Premier ministre australien apporte son soutien à une déclaration du G7 dénonçant la coercition économique de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon. Une campagne d'information Voice to Parliament devrait être lancée avec des ressources en plusieurs langues. Le Premier ministre australien a rencontré le président américain lors d'une réunion bilatérale hier qui s'est tenue en marge du sommet du G7 au Japon. Anthony Albanese et Joe Biden ont profité de la réunion pour signer un accord historique pour faire avancer l'action climatique et énergétique propre entre l'Australie et les États-Unis. Le nouveau pacte pour la transformation du climat, des minéraux critiques et de l'énergie propre vise à approfondir la coopération sur les plans de transition vers des émissions nettes zéro. Le Premier ministre australien et le dirigeant des États-Unis, du Japon et de l'Inde sont rencontrés pour une réunion de l'Alliance Quad aussi hier au Japon pour discuter d'actions conjointes dans l'Indo-Pacifique. Anthony Albanese se dit impatient de discuter de leur plan pour la région.
One year on, I'm absolutely delighted to be amongst close friends again. Here in Japan to continue our important work, standing together for an open, stable, secure and prosperous Indo-Pacific region. And our vision statement that we will release tonight sets out the principles for our engagement in the region.
Le président américain Joe Biden a déclaré qu'il avait la plus grande confiance dans l'Alliance.
I think people are going to look back at this, the Quad, and God willing, 10, 20, 30 years from now and say it changed the dynamic not only of the region but the world.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon, soutenu par la décision du président américain Joe Biden quelques heures avant la fourniture à l'Ukraine d'avions de combat F-16. Zelensky a passé une grande partie de la journée à rencontrer les dirigeants des démocraties les plus riches du monde et a plaidé en faveur d'une aide supplémentaire après 15 mois de lutte contre l'invasion russe de son pays. Il déclare qu'il a eu des réunions importantes avec des partenaires et des amis de l'Ukraine et qu'il est reconnaissant du soutien de ses alliés.
I'm very happy. Thank you very much. Thanks our partners. It really will help our society, our people to save houses, families. I think it's not the decision that we will have all these defending measures tomorrow. we have to prepare. But anyway, that is great result. Thanks to all the countries, to our partners. Thank you very much.
Le président français Emmanuel Macron a promis son soutien à l'Ukraine, affirmant qu'il serait avec eux jusqu'au bout. En marge du sommet du G7, une rencontre bilatérale s'est tenue entre le président français et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Emmanuel Macron a déclaré que la présence de Zelensky au Japon a été extrêmement importante pour vaincre la Russie et a garanti sa coopération.
But I think this is a unique opportunity as well. To exchange with a lot of other countries from the south, and to express your situation, convey your message, and share your view, and we will discuss about that. But I do believe that it can be a game changer. We are here, and we will be here till the very end.
Le deuxième sommet de la Ligue arabe touche à sa fin. La déclaration de Jeddah, publiée lors du sommet, réaffirme la position unie de la Ligue arabe sur la réalisation de la sécurité et de la stabilité dans le monde arabe et au-delà. Une attention particulière est accordée à l'initiative de paix arabe visant à résoudre le conflit israélo-palestinien et à aider la crise humanitaire en Syrie. Il s'agissait également du premier sommet après le retour du président syrien Bachar al-Assad dans la Ligue arabe après plus d'une décennie d'isolement. Les États-Unis ont déclaré qu'ils ne soutiendraient pas le rétablissement de relations normales entre les pays arabes et la Syrie. Le politologue Abdulaziz Al-Razin déclare que les États-Unis vont à l'encontre de la paix dans la région.
The statement of the United States fully reflects it upholds a different position than that of the Middle Eastern countries, which embodies its neocolonial mindset towards Syria. The United States hopes that the war in Syria will continue, so that it can continue to make substantial gains from the arms trade and profit by using the crisis to continue sowing chaos in the Middle East.
Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a déclaré que les athlètes ne devraient pas être punis pour les actes politiques de leur gouvernement. M. Bach a été interrogé sur une recommandation permettant aux athlètes biélorusses et russes de concourir. En tant que neutre, il a déclaré que la mission du Comité olympique est d'unifier le monde et que cela n'est pas possible qu'en étant politiquement neutre. Le président du CIO a déclaré que l'organisation travaillait avec diligence pour s'assurer que tous les pays membres olympiques se joindraient au prochain JO d'été de Paris 2024. Thomas Bach déclare qu'il est temps d'éviter les discours politiques.
We have a very clear position that you cannot sanction or punish athletes for any political acts of their government. We want to make our very humble and modest contribution to hopefully achieving peace. I think we should talk less about the wars and conflicts.
Vendredi, un médecin australien de 88 ans, Kenneth Elliott, a été libéré 7 ans après son enlèvement au Burkina Faso par Al-Qaïda. Magali Lagrange pour RFI.
C'est en 1972 que le docteur Kenneth Elliott et sa femme ouvrent leur clinique à Djibo. Ils apportent des soins à la population. Au moment de leur enlèvement, c'est le choc. Ganane Souleyman, qui travaille dans une radio locale de la ville, souligne le vide laissé par l'absence du médecin.
La clinique ne fonctionne plus. La clinique est fermée. Bon, ce médecin australien à Djibo, il rendait vraiment service à la population de Djibo concernant son travail de médecine. Quand il passait chez Elliott, il pouvait avoir les médicaments nécessaires. La population à Djibo sont très contents. On sent la joie en eux.
Une joie partagée par Oumarou Tao, membre d'un collectif de la société civile du Soum qui s'est mobilisé au fil des 7 années de captivité du médecin pour demander sa libération en organisant des marches ou en écrivant aux autorités. Pour lui, il fallait garder espoir.
À chaque anniversaire de l'enlèvement du docteur, nous avons tenu quand même à faire une activité. Parce que c'est quelqu'un qui était vraiment très ouvert et voilà, il était très proche de tout le monde, des jeunes, des personnes âgées, des enfants, et voilà. Donc, on est beaucoup habitués à le voir et c'est vraiment très lourd pour nous de nous lever un matin et de trouver qu'il n'était pas
là. Umaru Tao remercie tous ceux qui se sont mobilisés. S'il pense qu'il sera difficile de revoir Kenneth Elliott, il espère pouvoir un jour l'entendre de nouveau pour s'assurer qu'il se porte bien.
Le gouvernement fédéral lance une campagne d'information sur le prochain référendum sur la voix au Parlement. Il y aura des publicités télévisées et radiophoniques et des traductions en plusieurs langues. La ministre des Affaires autochtones, Linda Burney, a déclaré que le programme encouragera les Australiens à se préparer à la conversation sur la reconnaissance des aborigènes et des insulaires du détroit de Torres en créant une voix au Parlement. Et puis la légende de l'AFL, Michael Long, a appelé les groupes autochtones de toute l'Australie à s'unir pour voter oui à une voix autochtone au Parlement. Michael Long se prépare à marcher 650 km de Melbourne à Canberra dans les mois à venir, mais ce n'est pas la première fois qu'il se lance dans un acte historique pour soutenir les communautés autochtones. Michael Long a fait la une des journaux en 2004 lorsqu'il a dirigé une marche de protestation appelant à une rencontre avec le premier ministre de l'époque, John Howard. La légende de l'AFL a appelé au soutien pour une voix autochtone au Parlement. On passe à la météo pour ce dimanche 21 mai en Australie. À Perth, il fera 23 degrés. Adélaïde, 18 degrés. Melbourne, 15. Hobart, 13. Canberra, 13. Sydney, 19. Brisbane, 22. Darwin, 30. Et à Alice Springs, maximale de 18 degrés. Un rappel des titres de ce 21 mai, le Premier ministre australien apporte son soutien à une déclaration du G7 dénonçant la coercition économique de la Chine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a fait une apparition surprise au sommet du G7 au Japon. Une campagne d'information Voice to Parliament devrait être lancée avec des ressources en plusieurs langues. Fin du journal et dans quelques instants, le journal des sports. Le journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le Giro d'Italia, la 14e étape, une course de 193 km remportée par l'Allemand Nico Denz. On l'écoute.
I didn't want to race for four as I already had a win. For me it was either we go for the win or yeah, then we tried at least. When we came almost back with 1k to go, then we really started looking at each other, so I closed the gap. Jump straight on the wheel of Bettiol and then all out to the line. And here I am.
Bruno Amirail, le français, est maillot rose après cette étape. C'est le premier français depuis Jalabert à réaliser cet exploit. Jalabert l'avait fait en 1999. On écoute Bruno Amirail.
Bruno Amirail avec ta jolie maillot rose, qu'est-ce que te passe pour la tête en ce moment?
Qu'est-ce qui me passe Ouais, c'est difficile à dire, j'en reviens toujours pas, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ce matin j'étais très loin d'imaginer ça, de pouvoir être en rose ce soir. Et voilà. C'était la victoire d'étape qu'il fallait jouer aujourd'hui, avec l'équipe c'est ce qui était prévu. Ça faisait un petit moment que je voulais en échapper, mais il fallait que je reste auprès de Thibaut tous les derniers jours et tout. Et aujourd'hui j'ai eu l'opportunité d'aller dans l'échappée, on m'a donné le feu vert et bon, être en rose ce soir, c'est exceptionnel.
Quelle a été la clé de sa journée?
La clé, c'est Ineos qui m'a laissé le maillot, clairement. C'est pas moi qui suis allé le chercher. Mais la clé, déjà je visais la victoire d'étape. Après j'étais un peu limite dans le final.
J'ai eu froid dans la descente. Comme tous les jours, on a beaucoup de pluie sur ce Giro. Donc voilà, c'est pas de chance, mais c'est comme ça. Et ouais, il fallait faire attention et il fallait avoir de la chance de pouvoir être dans l'échappée aussi. C'est parti sur le plat, donc c'est quand même plus aléatoire, mais voilà, c'est comme ça.
On passe au foot, la Ligue 1 en France, la 36e journée avec la victoire de Lille contre l'OM 2-1 et Montpellier qui s'est imposé contre Nantes 3-0. En Angleterre, la 37e journée marquée par le couronnement de Manchester City après la défaite d'Arsenal, deuxième au classement, battu par Nottingham Forest 1-0. Les précisions de Philippe Auclair et Hugo Moissonnier pour RFI.
C'est fait, la première ligue tient son champion, qui était déjà le champion de l'année précédente. Le sacre de City, ce n'est pas forcément une surprise en soi. Philippe, la surprise, c'est que les Citizens n'ont même pas eu à jouer pour remporter la première ligue ce samedi. La surprise, c'est qu'Arsenal, eh bien, leur a permis de faire la fête dès ce samedi, puisqu'Arsenal s'est incliné contre Nottingham Forest, et ça, on ne s'y attendait pas du tout.
On savait que ça ne serait pas nécessairement très facile pour Arsenal, mais le discours qui venait du club était un discours « nous restons concentrés, nous voulons terminer avec le plus grand nombre de victoires jamais enregistrées par Arsenal en première ligue, un total de points qui ne serait inférieur qu'à celui des Invincibles », etc., etc. Mais tous ces beaux discours sur la pelouse de Nottingham Forest se sont conclus par une victoire 1-0 de Forest, qui au passage assure son maintien. Et donc Arsenal, bon, qui était déjà assuré de la deuxième place avant cette rencontre, s'est de nouveau incliné après la défaite contre Brighton, qui était franchement plus que décevante. Et très honnêtement, on a senti une équipe d'Arsenal qui était au bout physiquement, mentalement, psychologiquement, qui n'a pas fait preuve de beaucoup de tranchant ou d'imagination, qui n'a pas subi, qui a contrôlé le ballon la plupart du temps, mais sans créer véritablement de danger face à un bon Forest devant un public en feu. Et la conséquence, c'est qu'Arsenal, donc, qui n'a plus qu'un seul match à jouer, a 81 points, et que Manchester City, qui a encore 3 matchs à disputer, en a 85. Même si vous n'êtes pas super bon en arithmétique, je pense que vous serez arrivé à la conclusion que Arsenal finira avec 84 au maximum et que donc Manchester City est donc champion d'Angleterre pour la 5e fois en 6 années. C'est une domination qui devient écrasante de la part des Citizens.
Dans les autres matchs, Manchester United, 4e au classement, a battu Bournemouth 1-0. Liverpool, 5e et Aston Villa, 8e, ont fait match nul, 1-1. Brentford, 9e au classement, a battu Tottenham, 7e au classement, 3-1. En Espagne, la 35e journée, avec le FC Barcelone, premier au classement, qui a été battu par la Real Sociedad, 2-1. En Allemagne, même histoire, parce que le Bayern de Munich, premier au classement, a été battu par Leipzig, 3-1. En Italie, l'AC Milan, 5e, s'est imposé contre Sampdoria Gênes, 20e au classement, 5-1. Et puis en Écosse, à noter le nul entre Celtic et St Mirren, 2-2. On passe en Afrique avec la CAN des moins de 17 ans et la finale qui a été remportée par le Sénégal contre le Maroc. Sofiane Anani pour RFI.
C'est au tour des U17 sénégalais de triompher sur le toit de l'Afrique. Devant une solide équipe marocaine, reconnaît le jeune joueur Kebani Abali.
C'était pas facile pour nous. Une équipe comme Maroc, voilà, c'est une grande équipe, franchement. On a tout fait pour gagner ce match parce qu'on a nos grands qui ont passé par là, qui ont pris tous les trophées. On pouvait pas prendre ça, franchement.
Mené dès la 14e minute, il a fallu attendre la 80e pour égaliser. 3 minutes plus tard, Mamadou Souané inscrit le but de la victoire pour offrir au Sénégal le premier trophée dans cette catégorie, une vraie fierté pour l'entraîneur Salio Dia.
C'est d'abord au travers de longue date, je pense, on avait mis en place. Le Sénégal a la possibilité d'être encore très longtemps en haut. Donc encore une fois, c'est juste les bases qu'on est en train de jeter pour avoir un football durable sur le plan africain, pourquoi pas mondial.
Un 5e trophée en une année, un 2e en Algérie après le Chan il y a 3 mois, confirme la domination du football sénégalais sur le continent africain.
3 finalistes du prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 en France. Ils ont été nommés, comme nous l'explique Thomas de Saint-Léger pour RFI. Premier par ordre alphabétique, un abonné de ce club très fermé, le vainqueur sortant tout simplement, Seko Fofana, 28 ans, puissant milieu de terrain de Lens, avec 6 buts, 4 passes décisives et une influence toujours aussi importante dans le jeu de son équipe, l'Ivoirien a activement participé à l'excellente saison du club nordiste, quasiment assuré de finir sur le podium de Ligue 1. Il peut lui viser le doublé sur ce prix marque Vivien Fauet, performance uniquement réalisée par son compatriote Gervinho en 2010 et 2011. Toujours par ordre alphabétique vient ensuite notre deuxième candidat, un rock de RDC, Chancel Mbemba ou R Mbemba pour sa faculté à s'imposer dans les airs, redoutable dans les duels, combatif, offensif, même parfois le défenseur de Marseille s'est parfaitement acclimaté à la Ligue 1 et aux exigences de son entraîneur Igor Tudor, même s'il joue un peu moins ces dernières semaines. Enfin, le troisième finaliste est aussi l'unique attaquant de cette liste, le Nigérian Terem Mofi a la particularité d'avoir connu deux clubs cette saison, Lorient puis Nice depuis le mois de janvier. À 23 ans, le gaucher fait aujourd'hui partie des canonniers les plus efficaces de Ligue 1, 12 buts avec les Merlus, 5 pour les Aiglons, 17 en tout, déjà le meilleur total de sa carrière et ce n'est peut-être pas fini.
On passe au rugby, la Coupe des Champions et la finale a été remportée par La Rochelle contre Leinster, 27 à 26 dans un match très serré. François Ballarin pour RFI.
Mené 17 à 0, les Rochelais ont réussi un extraordinaire comeback jusqu'à la dernière seconde. Les supporters ont retenu leur souffle devant la pelouse de l'Aviva Stadium de Dublin. Le capitaine Rochelais, Grégory Aldrit, ne réalise pas encore l'exploit.
C'est très dur à réaliser là de suite, ça a été un match incroyable. On a fait preuve d'énormément de caractère et encore une fois de le gagner de cette façon-là, c'est juste énorme. Mais je pense que c'est pareil pour tout le groupe, on a besoin de rentrer à La Rochelle. De voir notre port, notre vieux port, plein à craquer de Rochelais pour, je pense, à réaliser une deuxième fois ce qu'on vient de faire. C'est juste fou à Marseille. Je pensais que j'avais touché le sommet au niveau des émotions avec le match, avec le port et franchement, ça s'arrête jamais. Donc, j'espère juste qu'on va rester dans ce mood et qu'on va aller, qu'on va surfer sur la vague et qu'on va profiter maintenant.
Tennis à Rome, les demi-finales messieurs avec la victoire de Rune contre Rud. C'était la bataille des Scandinaves. Le Danois sort vainqueur 6-7, 6-4, 6-2 et va rencontrer Medvedev, le Russe, qui a battu Tsitsipas, le Grec, 7-5, 7-5. Et la finale des dames a eu lieu avec Rybakina, la Kazakh, et Kalinina, l'Ukrainienne. Et c'est Rybakina, titrée à Rome après le forfait de Kalinina, dû à une blessure à la jambe gauche. La Kazakh s'impose donc à Rome 6-4, 1-0. Et voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Passons au personnage de la semaine avec Valentine Saboureau. Aujourd'hui, nous allons parler d'une figure très engagée du cinéma français. Elle s'appelle Adèle Haenel. Elle vient d'annoncer sa démission dans une lettre très reprise dans les médias. Une sortie dont les échos se font entendre jusque sur la croisette.
Alors que le Festival de Cannes bat son plein, nous allons évoquer une absente dont on parle beaucoup en ce moment. Il s'agit de l'actrice française Adèle Haenel qui vient d'adresser une lettre en forme de point final au journal Télérama. Dans celle-ci, la jeune femme de 34 ans explique « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu'il est. La publication de ce courrier le 9 mai dernier, à quelques jours seulement de l'ouverture de la grand-messe du cinéma mondial sur la Croisette, n'est sans doute pas dû au hasard, puisqu'il a déjà fait grand bruit dans le milieu, évidemment, et bien au-delà.
C'est une annonce radicale qui met un terme à une belle carrière.
Oui, elle a été repérée lors d'un casting sauvage pour le film Les Diables, alors qu'elle n'avait que 11 ans. Elle a d'ailleurs été saluée par la critique dès ses débuts. Elle a ensuite été choisie par Céline Sciamma pour jouer dans La naissance des pieuvres en 2007 et elle la retrouvera en 2019 pour Portrait de la jeune fille en feu. Au total, elle a tourné quelques 25 longs métrages, dont L'Apollonide, Souvenir de la maison close de Bertrand Bonello, Confession d'un enfant du siècle de Sylvie Vered, 120 battements par minute de Robin Campillo, ou plus récemment En liberté de Pierre Salvadori. Je ne peux pas les citer tous, mais beaucoup ont été diffusés sur grand écran ou sur SBS en Australie. Elle a obtenu plusieurs Césars, ainsi que le prix Romy Schneider. Présentée comme la nouvelle Adjani ou la nouvelle Huppert, elle est pour la journaliste des arts occultibles Emily Barnett l'anti-femme objet, celle-ci décrit un corps élégant et délié de géante, une voix heurtée, un air parfois ronchon, de temps à autre de drôles de contractions du visage, des yeux ronds, d'un bleu vert limpide, un sourire à tomber.
Adèle Haenel dénonce la toxicité et l'impunité qui règnent dans le milieu du cinéma.
Absolument. D'ailleurs, on dit qu'elle est à l'origine du mouvement MeToo en France. Le 3 novembre 2019, elle a accordé une interview choc à Mediapart en y dénonçant des faits d'attouchement et de harcèlement sexuel entre 13 et 15 ans de la part du réalisateur des Diables, justement, Christophe Ruggia. Elle a ensuite porté plainte. Elle est aussi connue pour son coup d'éclat lors des Césars 2020. Elle avait quitté la salle lorsque le César de la meilleure réalisation avait été attribué à Roman Polanski pour son film J'accuse. Ce dernier est toujours visé par plusieurs accusations de viol. Cette sortie avait déclenché une très grosse polémique et entraîné la publication d'une tribune virulente de l'auteur Virginie Despentes dans Libération. Le titre en était « Désormais, on se lève et on se barre ». C'est exactement ce que vient de faire Adèle Haenel à une toute autre échelle. Aujourd'hui, il y a ceux qui la soutiennent et ceux qui déplorent son attitude.
Quelles sont les répercussions à Cannes pour l'instant ?
Dans sa lettre, Adèle Haenel mentionnait les tapis rouges de Cannes où on continue à défendre, je cite, « l'ordre bourgeois » et où on s'efforce de rendre inaudible la résistance. Elle a aussi dénoncé ce qui, entre guillemets, se donne la main pour sauver la face des Depardieu, des Polanski, des Boutonnat. Alors Thierry Frémaux, le délégué général du festival, a rétorqué que ces accusations étaient fausses et erronée, ajoutant « Adèle Haenel ne pensait pas en ces termes lorsqu'elle venait à Cannes en tant qu'actrice, tout au moins j'espère qu'elle n'y souffrait pas de dissonance ». On peut dire que la guerre est déclarée. En attendant, un collectif de 123 signataires, dont Bastien Bouillon, Florence Loiret, Caille, Anthony Bajon, Laure Calamy ou Swann Harlow, ont publié une tribune dans Libération encore. Ils y écrivent « Nous sommes profondément indignés et refusons de garder le silence face au positionnement politique affiché par le Festival de Cannes. Nous refusons d'être associés aux décisions prises ces dernières semaines en déroulant le tapis rouge aux hommes et aux femmes qui agressent. Le Festival envoie le message que dans notre pays, nous pouvons continuer d'exercer des violences en toute impunité, que la violence est acceptable dans les lieux de création. » Alors cette année, deux films font l'objet de polémiques en raison de leur acteur ou de leurs conditions de tournage. Jeanne du Barry de Maïwenn avec Johnny Depp qui a fait l'ouverture et Le Retour de Catherine Corsini.
Trésor et 30 minutes sur les ondes de Radio SBS, vous écoutez le programme en français. On va partir maintenant à la rencontre de Vincent Hernandez qui organise la raclette Igloo Experience qui est arrivée à Melbourne avant de retourner à Canberra et d'aller à Sydney. Il est avec notre collègue Christophe Mallet.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
Eh bien aujourd'hui, ça sent bon l'hiver sur Radio SBS en français. On a Vincent Hernandez, on va parler de raclette qui arrive à Melbourne. Bonjour.
Bonjour.
Ça sent bon l'hiver parce que en Europe, plus particulièrement dans les Alpes d'ailleurs, les Alpes. Je fais bien attention de bien dire que c'est pas forcément que français la raclette.
Oui.
On a vraiment cette idée que la raclette est vraiment liée à l'hiver. C'est vrai. Ici, on mange de la raclette un peu plus longtemps. Je serais tenté de dire sur le calendrier. Mais vous nous amenez la raclette à Melbourne avec une expérience un petit peu différente. C'est la raclette igloo expérience. Expliquez-nous un petit peu.
Oui, bien sûr. Alors déjà, c'est vrai. Je veux souligner un point. On a beaucoup de nos amis suisses qui nous ont aussi écrit en disant « Mais la raclette, c'est très suisse. » Et oui, c'est vrai, c'est dans les Alpes. Il y a une partie qui est suisse, une partie qui est française. Mais voilà, nous, on est en train d'amener cette expérience qui s'appelle donc du coup la Raclette Igloo Experience. Et c'est un pop-up restaurant qui va avoir lieu sur Fed Square, sur la Sky Terrace, pendant à peu près 3 semaines. Et en gros, les gens vont avoir la possibilité, et c'est quelque chose qu'on voulait partager avec les Australiens, de découvrir une expérience française relativement traditionnelle en hiver, qui est de réunir ses amis autour de la table ou sa famille, de partager une raclette, de partager un moment qui est très convivial, qui est un moment où on crée des souvenirs ensemble, où on rigole. Et donc du coup, cette expérience, elle se déroule dans un igloo, enfin il y a 14 igloos pour être très précis. C'est des igloos de 6 ou de 8 personnes, et on tenait à ça. On a beaucoup de gens qui nous demandent pourquoi ils peuvent pas venir à deux, et on leur explique que traditionnellement c'est quelque chose qu'on fait plutôt en groupe, et c'est l'esprit qu'il y a derrière cette tradition culinaire française. Et donc du coup, les gens vont être accueillis sur place avec un verre de vin chaud. Ils vont pouvoir aller dans un igloo. Chaque igloo a le nom d'une station de ski française. Il y a une table magnifique à l'intérieur, un appareil à raclette. On met sur la table à peu près 1,8 kg de raclette, des patates, du jambon fumé, de la viande de grison, toute la partie traditionnelle. Et les gens, pendant 1h30, vont pouvoir déguster, ils vont pouvoir boire du vin français avec ça, qui parfaitement perdre. Et devant l'igloo, vous avez un fire pit, un feu de camp. Et ça vous permet après de gather, de vous retrouver autour du feu à la fin du repas et de griller des marshmallows. Et c'est comme ça que l'expérience se déroule sur à peu près 1h30-2h.
Alors vous êtes peut-être le seul Français qui voudrait qu'il fasse froid pendant ces 3 semaines-là, parce que ça va aussi avec l'expérience. Il faut qu'il fasse froid pour en profiter.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, en Australie, on en mange un peu plus fréquemment qu'en France. Mais pour nous, et c'est pour ça qu'on voulait vraiment démarrer cette expérience sur fin mai, mi-mai, fin mai, c'est parce qu'on espère qu'il va faire relativement froid et que les gens vont pouvoir vraiment s'immerser, désolé, dans cette vibe de l'esprit hivernal.
Vous, la raclette, ça entre guillemets ambiancé toutes nos vies, hein. On doit pas être très loin d'avoir le même âge. C'est quelque chose on a grandi avec. C'est clair que c'est devenu très populaire, peut-être dans notre génération, hein, peut-être un peu moins avant, mais aujourd'hui c'est quelque chose qui transgresse justement ces générations, parce que en tant que Français, alors je vais pas dire que franco-français, parce que les Suisses, c'est la même chose pour les Suisses. J'ai des amis suisses et c'est exactement la même chose, mais il y a aussi cette tradition d'emmener ça vers les petits. C'est qu'en fait, on commence très jeune la raclette également.
Oui, entièrement, et c'est totalement vrai. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de familles qui viennent et qui vont faire découvrir ça à leurs enfants. Moi, tout à fait d'accord, c'est quelque chose qui a bercé, alors plutôt à partir de mon adolescence, effectivement, mais c'était quelque chose que je faisais une à deux fois tous les hivers avec mes amis, ma famille, et c'était un moment qu'on attendait, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il fait froid, c'est réconfortant de déguster ce fromage, et aujourd'hui, c'est un fromage qui est très accessible, et en travaillant sur cette expérience, on s'est rendu compte que c'est le fromage le plus vendu en France, ce qui est extrêmement, qui nous a, nous, un petit peu surpris. C'est même pas le camembert, non, c'est la raclette. Et c'est vrai que c'est un fromage qui est facile au niveau du palais. C'est pas un fromage qui est trop fort. Du coup, beaucoup de gens apprécient ce fromage-là. Et les Australiens l'ont découvert depuis longtemps, mais ça fait quand même, on va dire, peut-être dans mon expérience, 5-6 ans que vraiment ça s'est démocratisé, qu'on entend, que les Australiens connaissent le nom raclette, etc. Et du coup, c'est excitant de pouvoir partager cette espèce de tradition ou de bons souvenirs, en tout cas, que nous on a en tant que Français ou Suisse ou francophone de partager un repas autour de ce délicieux fromage.
Un autre axe de la discussion pour aujourd'hui, c'est le côté expérience, parce que c'est vrai que en France, ça se développe aussi beaucoup, et notamment également aussi en Australie, mais le fait que on va au restaurant, mais on veut une expérience également. Et ça, c'est aussi important dans ce que vous proposez.
Oui, complètement. En fait, it's a night out. C'est une soirée particulière. C'est un moment particulier. C'est pas juste aller au restaurant. Les igloos qu'on a à Melbourne et sont absolument magnifiques. Les gens vont dîner en regardant la skyline de Melbourne. Il y a un feu de camp devant votre igloo. Vous réunissez vos amis, votre famille. Vous partagez un moment ensemble. C'est plus juste une soirée où on dit tiens, est-ce qu'on va aller au restaurant. C'est une expérience où les gens sont accueillis avec leur groupe. Il va y avoir on l'a appelé le raclette guide. Donc il y a un serveur français qui va accueillir chacun des convives et qui va les amener dans leur igloo, qui va leur expliquer la tradition de la raclette, qui va leur expliquer comment se servir comment simplement griller sa raclette, comment ça fonctionne, parce que ça nous paraît très très simple pour nous, mais ça n'est pas autant pour des Australiens qui connaissent pas forcément ces traditions là qui vont les emmener à travers toute le un peu d'histoire et de tradition, et puis c'est un moment de convivialité. Donc du coup c'est quelque chose qu'on planifie, qui est une expérience, qui est un événement, quelque chose un peu unique dont on se souvient, un peu plus unique aujourd'hui que d'aller simplement dans un restaurant, même si on adore ça de la même manière.
Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est que la raclette, qu'elle soit française ou qu'elle soit suisse, les Australiens, ils font des choses avec la raclette qui sont choquantes presque. Hein. On met pas de la raclette sur du brocoli. Et ça, peut-être, ça va être aussi la base de remettre les bases justement de ce qu'est une raclette.
Mais oui, et puis c'est marrant parce que par exemple la viande de grison qui est présente dans l'expérience, c'est pas quelque chose qui est très très connu des Australiens. Et effectivement, on a rigolé parce qu'on a lancé cette expérience à Canberra l'année dernière. Ça a été un énorme succès et donc du coup on l'a amené à Melbourne, ça retourne à Canberra et ça va à Sydney. Donc c'est une expérience qui va voyager sur les trois villes cet hiver. Et l'année dernière, on a des gens qui grillaient la raclette sur le dessus de l'appareil. On a eu plein de scénarios très marrants et on voit effectivement il faut expliquer les bases de c'est quelque chose, finalement c'est un plat qui est assez simple. On va pas essayer de dire que c'est de la fine cuisine. C'est un plat qui est assez simple mais qui est délicieux. Et oui, il faut le faire couler la raclette, la griller d'une certaine manière en fonction de vos goûts, la déposer sur des patates, mettre le jambon dessus, les cornichons, les pickled onions, etc. Mais il n'y a pas de brocoli. On a des vegans qui nous ont écrit en disant est-ce que je peux participer? Pas vraiment, parce qu'on va pouvoir vous donner que des patates à manger. Donc c'est une expérience vraiment très traditionnelle et effectivement où on explique et on doit expliquer à nos convives vraiment exactement comment la déguster et comment la faire de manière traditionnelle.
Et c'est aussi une soirée on oublie ses artères. C'est juste pas fait pour non plus.
Oui, mais alors ça c'est l'avantage de l'hiver. Hein. L'hiver c'est fait pour.
Non, mais voilà. Après, c'est aussi le fait que, et j'en viens à un point quand même, c'est sérieux ce que je dis, mais c'est un plat qui est quand même très épicurien. On en profite, oui. On profite de la vie quand on sait qu'on profite de la vie et on déclare au monde qu'on profite de la vie quand on apprécie une bonne raclette.
Et puis, il y a quelque chose de génial, de griller son fromage soi-même, de griller comme on veut, juste le fait de regarder le fromage couler et venir se mettre sur, ça a quelque chose de très sexy d'une certaine manière, en tout cas de très gourmand et du coup oui c'est très agréable.
C'est là où Instagram aussi entre en jeu, j'imagine.
À 150%. Je disais juste, on a commencé la campagne avec quelque chose qu'ils appelaient 50 shades of cheese, of melted cheese. Et c'était assez marrant parce que c'était 50 manières de griller le fromage, de le faire fondre, de le déposer sur une, et c'était notre campagne Instagram et ça a très bien fonctionné et c'est vrai que ça a ce côté un peu food porn comme ils disent ici.
Ouais, tout à fait. Allez, rappelez-nous où est-ce qu'on peut avoir plus d'informations par rapport à cet événement à Melbourne et peut-être un peu plus tard aussi également.
Bien sûr. Eh ben, on a un website qui est racletteigloo.experience.com.au. Si vous tapez tout simplement raclette igloo sur Google, vous allez nous trouver en deux minutes. Et vous aurez toutes les informations sur le déroulé, exactement les produits qui sont mis en avant pendant l'expérience. Et voilà, et l'event démarre à Melbourne le 18 mai, se termine le 11 juin, puis va à Canberra et ensuite sera à Sydney du 13 au 16 pendant 4 jours sur George Street.
D'accord, et j'ai une dernière information, d'après votre Instagram, vous avez importé 2000 kilos, donc 2 tonnes de fromage.
Oui, c'est énorme.
C'est énorme, ça fait beaucoup, c'est clair.
Nous avons 2 tonnes de raclette qui arrivent, qui sont d'ailleurs qui devraient pas tarder à arriver, là, je crois, demain ou après-demain. On a 2 tonnes de raclette française qui arrivent direct de France.
D'accord. Bah Vincent Hernandez, merci. En tout cas, merci pour nous avoir fait partager ce moment, comme je le disais, un peu plutôt épicurien. Merci.
Merci beaucoup.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et 43 minutes sur les ondes de Radio SBS. Vous écoutez le programme en français et on enchaîne avec l'humoriste Paul Taylor qui est en Australie pour des spectacles et on a eu l'occasion de l'avoir juste avant son arrivée ici en Australie. Il est en compagnie de notre collègue Christophe Mallet.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Hello French people in Australia, je m'appelle Paul Taylor et on se voit très très vite pour mon spectacle Bisou Bye partout en Australie, everywhere.
Alors on a le plaisir aujourd'hui sur SBS d'avoir quelqu'un qu'on connaît bien puisqu'il a déjà été interviewé sur nos ondes, je sais pas s'il s'en souvient mais nous on s'en souvient en tout cas, c'est Paul Taylor qui revient en Australie. Bonjour Paul.
Hello, très content d'être de retour sur la chaîne. J'étais même pas au courant, j'avais oublié la dernière fois qu'on s'était pas parlé nous, mais que j'étais sur l'antenne.
Ouais, tout à fait. Bon, c'est pas grave. Vous avez pas l'interview, hein, on va dire ça. Vous revenez en Australie, ça fait comment, c'est quoi pour vous de vous dire vous pouvez emmener votre spectacle à l'autre bout du monde parce que du coup on parle anglais ici en Australie, mais vous êtes sûrement aperçu que on parle aussi français pas mal en Australie quand même.
Oui, ouais, le truc qui est ironique à chaque fois que je parle à des gens ici en Europe, enfin je suis en Angleterre en ce moment, mais quand je suis à la maison en France et que les gens ils sont waouh, tu joues en Australie, tu joues, c'est incroyable, à Singapour, à Bangkok juste avant, c'est incroyable. Je dis ouais, mais c'est pour les expats français. Ils font ah, ok. Donc tout de suite ça rend moins stylé pour les Français que je vais jouer mon spectacle en français, mais oui, c'est sûr, en fait c'est que moi ce qui me fait plaisir c'est que je sais pas pourquoi les Français lambda entre guillemets, les humoristes français ne font pas plus ça, parce que du coup il y a plein de Français partout dans le monde et ce qui vous manque c'est de la culture en vrai, en live, en direct, et des spectacles et des trucs comme ça. Donc ça me fait plaisir de pouvoir venir en Australie jouer. Surtout, vous êtes les Français les plus loin de la France, à part la Nouvelle-Zélande. Donc, ça fait plaisir.
On va rappeler les dates tout de suite avant que j'oublie. En Australie, à Perth, vous êtes le 23, Adélaïde le 25, Melbourne le 26, Canberra le 27, Sydney le 28 et Brisbane le 30 du mois de mai, bien sûr. Ça fait pas mal de voyages avec très peu de pauses entre chaque ville.
Ouais, c'est le seul truc qui est dommage avec les tournées d'humour ou des tournées de musique, c'est qu'on n'a pas le temps de s'arrêter. Parce que sinon en fait ça coûte trop d'argent entre guillemets, parce que le vol et tous les hôtels, bah ici il faut repayer des nuits d'hôtel juste pour le plaisir, bah du coup ça devient un peu compliqué. Mais il y a au moins deux jours off, il y en a un à Adélaïde, putain je l'ai dit à la française, je déteste les gens qui disent Adélaïde, mais bon je l'ai dit, voilà.
Et pareil. Adélaïde. Et Brisbane. Les gens qui disent Brisbane aussi.
Brisbane. Ouais. Et donc, ouais, ça, c'est le, ouais. Le seul inconvénient, c'est qu'on reste pas très longtemps, malheureusement.
Alors, la vie de Paul Taylor, nous, on vous a connu, en tout cas, à travers, Canal+, quand vous avez fait votre série, il y a un petit moment, et puis il y a tout ce qui était sur YouTube, etc. Mais, ça marche bien quand même pour Paul Taylor, et il est loin le moment où vous étiez un avocat, vous travaillez un petit peu, vous êtes de formation, juridique, c'est ça?
Non, c'est ma femme qui était avocate avant de bosser avec moi. Moi, j'étais formateur chez Apple. Je bossais chez Apple. J'ai démissionné là il y a 8 ans presque. Quasiment, ce sera 8 ans jour pour jour le 15 mai. Donc juste avant que j'arrive en Australie.
C'était plutôt un changement quand même pour vous. Ça a plutôt bien payé aussi. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous?
Je sais pas s'il y avait, pas ce fameux déclic dont tout le monde parle. Il y avait pas un moment spécifique où je me suis dit ça y est, je quitte tout et c'était un processus très très long, comme tout dans la vie. Hein. J'avais commencé à vouloir, j'avais commencé à aimer le stand-up genre à 20 ans, 21 ans quand j'étais à l'université. Ensuite, j'avais fait quelques scènes ouvertes à Londres avant de déménager à Paris. J'arrive à Paris, je fais rien pendant 3 ans, je continue à bosser chez Apple et après je me dis ok, je vais remonter sur scène, je commence à monter sur scène, je fais les deux pendant 2 ans et demi, 3 ans. Et au bout de 3 ans, il y avait vraiment un moment où c'était juste ok, ça se passe très bien sur scène, j'ai du succès, mais pour avancer, il va falloir que je dise au revoir à mon boulot parce que ça prenait trop de temps et donc du coup j'ai dit au revoir à mon boulot il y a 7-8 ans et là avec ce spectacle là qui s'appelle Bisou Bye, je redis au revoir à plein de choses maintenant dans ma vie pour avancer professionnellement encore une fois et personnellement. Donc c'est un peu la boucle qui boucle la boucle.
Voilà, c'est ça. pour vous le Brexit, ça a quand même mis pas mal d'eau à votre moulin, je suppose. Ça a été ouais. Quand même pas mal de réflexion, non, quand même?
Ouais, c'était. J'en ai jamais vraiment trop parlé sur scène parce que je suis pas politique et dans le sens où je trouve pour faire de l'humour sur la politique, il faut s'y connaître en politique et je m'y connais rien vraiment en politique. Juste mon instinct, c'était que c'était une décision de merde. Pardon pour les gros mots, mais bon, c'est en français.
Non, mais on est d'accord.
Ouais, c'est bon. C'est ce que j'allais dire. C'est pas une interview en anglais. J'oublie en fait qu'en France et en français, c'est pas grave si on dit des gros mots. En Angleterre et en Australie, dès qu'il y a un gros mot qui sort, c'est genre oh désolé les auditeurs et les auditrices. Oh, ils sont très pudiques là-dessus. Bref, ouais, je trouve ça, je sais pas, je trouve dans un monde dans lequel on se sépare de plus en plus, il y a plus en plus de barrières humaines, que on s'ajoute ça, c'est ridicule. Et là, il y a tellement de conséquences négatives, mais le gouvernement ici, là, je suis en Angleterre en ce moment, comme j'ai dit, ils se couvrent. Ils disent non, c'est pas à cause du Brexit qu'on a des problèmes à Douvres avec les camions qui traversent pour la France. Non, c'est pas à cause de. Ils mettent ça sur d'autres problèmes, mais je trouve ça vraiment. Je trouve ça stupide en fait, mais bon, c'est pas moi qui fais la politique. Hein.
Ouais, c'est encore le wrong kind of snow. Il y a eu quelque chose autour de la wrong kind of snow sur les rails anglais, je crois. Pour le moment, on essaie de trouver une autre personne responsable que les vraies actions.
Oui, c'est ça.
Le spectacle Bisou Bye. Vous nous en parlez un petit peu. Comment ça s'est passé pour l'écrire? Parce que je suppose qu'il a été écrit en partie à la fin du Covid. Enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre dans ce spectacle Bisou Bye?
Ouais, en fait, comme je disais, le thème du spectacle, c'est je dis au revoir à plein de choses pour avancer dans ma vie, donc que ça soit personnel ou professionnel. Niveau personnel, j'ai dit au revoir à l'alcool il y a 7 mois, et donc du coup, pour un Anglais qui boit pas, c'est un peu difficile de s'assumer, mais je raconte dans le spectacle pourquoi j'ai arrêté l'alcool, qui est entre guillemets une étape assez importante dans ma vie. Niveau professionnel, c'est plus le côté bilingue sur scène. Ça va être mon dernier spectacle bilingue, c'est pour ça que ça s'appelle Bisou Bye aussi, parce que je vais me concentrer un peu sur chaque langue séparément après, parce que je pense que j'ai atteint la limite de ce que je peux faire au niveau bilingue, qui est déjà très très cool, mais je pense que j'ai autre chose à fournir pour les anglophones, purs anglophones. Donc je vais essayer de faire de me concentrer sur l'anglais après celui-là, et éventuellement français pour les français qui pouvaient pas apprécier les trois premiers spectacles parce qu'ils parlent pas anglais, donc du coup faire du français pour les franco-français et faire de l'anglais pour les anglophones.
L'Australie, vous venez avec un petit peu d'expérience, comme on le disait au départ, vous avez déjà joué en Australie. Là, ça va être un petit peu différent, mais vous arrivez avec quoi comme attente en fait, ce public-là qui est un public rêvé, j'allais dire pour vous, parce que on parle français, on parle australien, on switch dans les deux langues à longueur de journée, à longueur de nuit, même si on rêve dans plusieurs langues, c'est un peu carrément votre fonds de commerce en fait en tant que tel.
Ouais, en vrai c'est exactement ça. L'Australie, ouais, j'étais déjà venu pour le premier spectacle franglais. Je voulais venir pour le deuxième, mais Covid a fait en sorte que on pouvait pas. Et en plus, j'avais vécu 4 mois à Sydney pendant que je bossais chez Apple. En fait, je bossais chez Apple et j'avais aidé à ouvrir leur magasin là-bas et à Melbourne. Et donc, je connais bien l'Australie. J'y étais l'année dernière pour un mariage d'un de mes meilleurs potes. Donc, je connais bien la culture, bah, qui est très proche de la culture britannique, on va pas se mentir. Et en vrai, oui, le public, soit français en Angleterre, soit français aux États-Unis, soit français en Australie. En fait, les expats français, ça fonctionne bien parce que comme moi, je suis un expat en France, c'est juste l'inverse en fait. Donc du coup, les histoires et les blagues et les situations de vie sont assez similaires. Donc on se retrouve tous un peu dans ce truc d'être un étranger dans un autre pays qui comprend mal la culture ou qui a du mal à comprendre certaines situations et certaines subtilités.
Est-ce que vous aviez lu à l'époque, je sais plus l'auteur, mais il y avait toute une série de livres, You're in a Merde, etc. Est-ce que vous aviez lu ça en tant que Britannique? Ça a fait un énorme succès. Ça, c'est un peu le livre que, si on était un peu dans la culture bilingue, on s'est dit, j'aurais pu l'écrire. Mais en fait, on l'a pas écrit. Et en fait, il a quand même cartonné ce livre. Il vous avait marqué ou pas?
Ouais, je me souviens de ce livre ça devait être en 2009, juste avant de venir habiter en France. J'avais lu le livre, je sais pas si c'était exprès parce que je savais que je venais, mais je l'avais trouvé quelque part et je l'avais lu et j'avais beaucoup apprécié l'humour et l'échange de culture. Et depuis, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur Stephen Clark dans plusieurs scénarios sur Paris. Et il en a fait une série. J'en ai que lu un et demi, je crois. Je suis pas un lecteur vraiment. C'est le seul truc que je reproche de ma vie, c'est que je ne lis pas. J'ai pas l'attention je perds l'attention trop vite et ça me saoule de revenir 4 pages parce que j'ai oublié mon cerveau, il était parti. Mais j'avais beaucoup apprécié ce livre et puis je me suis dit pourquoi ils ont pas créé une émission de télé ou un film là-dessus. Ça aurait été Emily in Paris, c'est devenu un peu le nouveau Year in the Merde. C'est ça.
Ouais. Un peu américanisé quand même, mais bon.
Un peu beaucoup trop, ouais.
Quel regard vous avez sur Paris là? Parce que maintenant vous êtes adopté, je veux dire, par les Français. Vous vivez en France, vous vivez, je sais pas si vous vivez dans Paris intramuros ou pas, mais vous avez une vie qui est très parisienne. Quel regard vous avez sur les Français? On est toujours un peu bizarre quand même pour vous ou pas?
Bien sûr. Oui, ouais, c'est toujours oui. En fait, je suis plus parisien qu'autre chose. Là, ça fait 14, ça va faire 14 ans que j'habite à Paris et le plus long que j'ai vécu dans un autre endroit, c'est 3 ans. Donc vraiment, je suis parisien de loin parce que j'ai beaucoup bougé. Mais ouais, en fait, là en ce moment, depuis le Covid, la ville, elle est dure. Il y a des travaux partout. En fait, tout me saoule beaucoup plus vite et tout saoule tout le monde. En fait, il y a eu là récemment avec les réformes de retraite. Je sais pas si les Français de là-bas suivent un peu les actualités de tout ça, mais il y a la ville. C'était dur là le janvier, février, mars avec tous les travaux dans les rues parce que c'est impossible de circuler en voiture ou en vélo ou en métro ou en trottinette ou en taxi. C'est un enfer. La ville, c'est devenu un enfer vraiment pour y vivre. Surtout moi, j'habite en banlieue et donc du coup souvent il faut que je me rende dans Paris et c'est devenu un véritable enfer et tout le monde est en colère, tout le monde s'engueule. Il y a une atmosphère un peu de colère que j'avais un peu trouvé avant les attentats et disons que les attentats en 2015 ça avait un peu ressouder la ville et que tout le monde était redevenu gentil et il y avait une solidarité entre nous. Et là, c'est après le Covid, c'est redevenu un peu le bordel. Donc, j'espère avec les JO l'année prochaine, je crois que ça va ressouder la ville parce que c'est ce qui s'est passé à Londres. C'est que Londres était devenu un peu un enfer pour y vivre. Les JO sont arrivés et tout le monde était là. Waouh, c'est incroyable. Ça donne une ambiance de ouf dans la ville. Donc, j'ose espérer que ça va faire le même effet.
Ouais, vous êtes un vrai Parisien. Vous râlez. Tant mieux.
Je suis devenu 100% parisien parce que je râle à l'extérieur maintenant. Parisien gentleman, c'est peut-être un bon titre pour un spectacle, ça, en fait. Parisien gentleman.
Ouais, c'est bien ça, Parisien gentleman, c'est joli ça. En tout cas, on vous attend de pied ferme ici en Australie. Je rappelle les dates, vous êtes à Perth le 23 mai, à Adélaïde le 25, Melbourne le 26, Canberra le 27, Sydney le 28 et Brisbane le 30. Faut vraiment réserver assez rapidement parce qu'en fait, il y a même des spectacles qui sont déjà sold out. Je crois que Brisbane est sold out par exemple. Donc ça va très très vite.
Il y a Melbourne, c'est une grande salle, c'est une salle de 900, donc on a quand même je crois qu'il nous reste 150 places. Mais Perth c'est sold out, Sydney et Brisbane, mais on va les doubler non, c'est pas qu'on va les doubler, c'est que Perth, on cherche une plus grande salle pour accueillir les gens. Brisbane, on double, on fait deux à Brisbane, un le lendemain, donc je crois que c'est le 31, et Sydney, on double le soir même parce qu'il y avait trop de demandes et c'est incroyable. Donc je suis très très content et j'ai envie que enfin je suis là, donc je vais pas retourner avec ce spectacle là, donc autant doubler les dates quand on peut.
Absolument, merci, et j'ai tenté je vais vous dire bon voyage. Ouais, on s'attend, on vous attend en Australie, absolument. Ouais.
I cannot wait. I'll see you there.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h sur les ondes de SBS in French. Et je vous laisse avec Milko Fouché Larcher. Et Corinne Andrew en duo qui nous interprète La vie en rose. Et ils arrivent à Melbourne prochainement pour une série de concerts du 24 au 27 mai. Belle journée, à bientôt.
Quand elle me prend dans ses bras, elle me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Et ça me fait quelque chose. Il est entre...
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.